Manet et Degas face à face avec Stéphane Guégan et Philippe Lançon. Confronte pas les dieux de l'Olympe artistique. On les admire séparément et on organise pour chacun de grandes rétrospectives. Le musée d'Orsay a rompu avec cette tradition en nous offrant un splendide mano à mano entre Manet et Degas, pour reprendre l'expression très suggestive de Philippe Lançon. Et je voudrais demander sans plus tarder à Stéphane Guégan, conseiller scientifique auprès des présidents des musées d'Orsay et de l'Orangerie, quelle est la raison profonde de ce match amical, ou pour le dire autrement, de cette contemplation comparative. Stéphane Guégan.
Vous l'avez rappelé, les musées séparent, les musées isolent. Les expositions, notamment, concentrent l'attention sur une figure, un mouvement qu'on a eu envie de briser avec cette habitude. À vrai dire, cette volonté de comparer vient de très loin. Pensons à Plutarque, pensons aux vies parallèles. Plutarque accouple des hommes illustres pour mieux faire valoir leurs mérites respectifs. Cette exposition rapproche Manet et Degas pour ce qu'ils ont en commun et pour ce qui les sépare. Je crois que, un peu comme deux silex qu'on frotterait l'un contre l'autre, nous avons cherché à produire de nouvelles étincelles. Et si j'emploie d'ailleurs l'image du silex, c'est que je viens de la croiser dans la correspondance entre Marcel Proust et l'abbé Munier. Marcel Proust aimait ce genre d'étincelles, hein, ce genre de conversation, de dialogue. Et nous avons cherché, au fond, avec Isolde Pludermacher, l'autre commissaire de cette exposition, à mettre en lumière leurs différences comme leurs ressemblances.
Qu'avez-vous retiré, vous, Philippe Lançon, justement
de... Eh bien, j'ai vu l'exposition deux fois. Et en fait, peu à peu, le cheminement qui a été le mien, à propos de peintres que, comme beaucoup, j'aime par-dessus tout et que je regarde depuis longtemps, bien avant d'avoir été journaliste ou quoi que ce soit. Dans un premier temps, évidemment, j'étais l'œil naturellement, quand il y a une confrontation, en tout cas le mien, et dans ce que j'ai appelé le mano à mano, c'est-à-dire effectivement une pure confrontation qui conduit à se demander quel est le meilleur. Et puis, très progressivement, dans le cheminement de l'exposition, puis en la revoyant, cette opposition frontale a disparu au profit d'un regard partagé. Et le fait que, comme le disait Stéphane, la présence de l'un permet de mieux voir l'autre, et réciproquement. Et c'est ça qui, en tout cas, m'a intéressé, en dehors du fait que l'aspect biographique, qui est très présent, psychologique, politique, les caractères de ces deux hommes, qui apparaissent sur les toiles, d'une manière, dans leur manière de traiter, par exemple, les femmes, le regard qu'ils portent sur les femmes. Disons que Manet étant probablement, d'une manière générale, plus civil et ironique, et Degas étant plus incivil et sarcastique, tout cela fait que, à un moment donné, la confrontation laisse place à simplement un enrichissement, je trouve, de l'œil assez remarquable.
Bien, là, vous venez de bouleverser l'ordre que je voulais donner à mon émission, mais restons-en aux femmes, donc. Parce que vous dites, Manet, civil, ironique. Degas, plus sarcastique. Mais, effectivement, Manet civil, je le vois très bien dans les tableaux de Berthe Morisot. 11 tableaux de Berthe Morisot et il y a le balcon, on en reparlera. Il y a aussi Berthe Morisot avec un bouquet de violettes, je crois.
Bien sûr.
Qui est peut-être un des plus beaux portraits que j'ai jamais vu, où on est difficile dans le...
Et avec l'éventail.
Oui, en le regardant, de ne pas tomber éperdument amoureux de cette femme. Mais l'idée que Degas soit sarcastique, personnellement, je n'en suis pas sûr, parce que il présente des femmes dans des p- peut, dans des moments intimes, justement pas dans des pauses, dans des moments intimes, elle se baigne, il y a le fameux tub, etc. On les surprend. On a presque, on se dit, oui, non, on devrait pas être là, mais je trouve que dans ces tableaux, il y a une grande tendresse, et en vous lisant dans le catalogue, Stéphane Guégan, j'ai appris, sans trop de surprise, étant donné le climat dans lequel nous vivons, qu'il commençait à être taxé de misogynie, de gars, qu'il allait peut-être bientôt passer un aussi mauvais gardeur que Picasso. C'est très surprenant à mes yeux.
Oui, je comprends votre étonnement. Stéphane Guégan. Je comprends votre étonnement, d'autant plus que l'accusation de misogynie surgit très tôt. Je crois qu'elle surgit dès 1886, à l'occasion de la dernière exposition impressionniste, puisque Degas était l'acteur de ces expositions, et il a su y glisser un certain nombre d'images de femmes dans leur intimité, leur toilette, le tub. Voilà. Chose d'ailleurs qui, dès 1976-1977, intéresse Manet. En cela, Manet a compris qu'il y avait là une nouveauté. Alors, on accuse Degas non seulement d'être misogyne parce que il montrerait les corps de femmes d'une façon dégradante, il réduirait les femmes à leur nudité, et par ailleurs on l'accuse de voyeurisme, c'est-à-dire que effectivement les femmes sont montrées comme si elles ne soupçonnaient pas qu'elles étaient vues, examinées et peintes. Mais vous avez raison en insistant sur ce que ce regard a de doux, de caressant, de séduisant. Degas exprime là non pas son mépris des femmes ou sa peur des femmes, mais tout simplement une sorte de magnétisme. Elles sont enveloppées dans un regard caressant.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, alors oui, je pense aussi que la misogynie dont on l'a accusée tient aussi beaucoup à des dessins et monotypes des encres qu'il a faites de prostituées. Degas, comme tous les hommes, beaucoup d'hommes de sa génération, allait au bordel. On ne sait pas trop ce qu'il y faisait, parce que c'est, semble-t-il, quelqu'un finalement d'extrêmement chaste. Et il y a des paroles d'ailleurs presque cruelles de Manet à ce sujet. Mais il y allait, ça c'est certain, en position d'observateur, sinon de voyeur. Et il a fait des dessins de prostituées et des monotypes absolument admirables. Et Samy, je n'y crois pas plus que Stéphane. Déjà aussi, ce qui est important quand on parle d'une accusation comme celle-là, c'est les actes avant les pensées qu'on prête à l'artiste. Et quand même, Degas, c'est l'homme qui a énormément soutenu et encouragé Berthe Morisot, Marie Cassatt et, je crois, Suzanne Valadon. Donc, il les a vraiment soutenus, il les a encouragés à peindre. Donc, pour un misogyne, on passera là. Alors, ce qui est certain chez Degas, et c'est le cas aussi politiquement, c'est que, quelles que soient ses opinions, quand il s'agit de peindre ou de dessiner, l'artiste prend systématiquement et obstinément le dessus. C'est-à-dire qu'il passe dans un champ d'expérimentation absolument libre, où le regard doit pouvoir, et le geste, doit pouvoir exprimer des choses qui dépassent absolument les enjeux sociaux. Et c'est aussi ce qui fait que, effectivement, les portraits admirables de femmes qu'il fait sont toujours mis en beauté. Alors, il les prend vraiment au naturel ou dans des positions qui sont souvent au repos ou alors de fatigue, hein, beaucoup de fatigue et d'abandon. Mais effectivement, le travail sur le dessin, la couleur, les matières qu'il utilise, tout cela rend les choses, évidemment... Donc, il y a une tension extraordinaire. Mais pour finir là-dessus... Il y a un moment dans il y en a beaucoup assez spectaculaires dans l'exposition où sont mis côte à côte la même femme, c'était le même modèle, au même endroit dans un bistrot, dans la même position, c'est-à-dire seule, même si l'une des deux il y a un voisin, donc il y a l'absinthe de Gas et la prune de Manet. Et là, on voit vraiment tout à fait la différence de traitement, c'est-à-dire que la femme peinte par Manet est très séduisante et attirante. Tandis que la femme peinte par Degas a quelque chose de presque desséché, comme si elle était elle-même, elle avait trempé dans l'alcool puis elle en était ressortie pour sécher sur la toile, avec un abandon et une solitude absolument terrible, mais qui est admirable, hein, bien entendu. Et avec un homme à côté qui a l'air d'un ivrogne, qui était un vieil ami de Manet. Et d'ailleurs, quand elle parlait le modèle bien des années après de ce tableau, elle disait, il nous a peint, on a l'impression d'être deux andouilles. Donc, vous voyez, mais tous les deux sont sensuels, mais absolument pas de la même façon.
Alors, Vous avez cité Marie Cassatt. Il y a un tableau que j'ai découvert aussi lors de cette exposition. C'est Marie Cassatt au musée du Louvre. Oui. Et là, je trouve que c'est dans la délicatesse. Ça me fait penser à Vuillard. C'est quelque chose d'absolument merveilleux.
Oui, je vois très bien à quel Vuillard vous pensez. C'est amusant d'ailleurs que, comme Philippe vient de le rappeler, qu'il ait mis Degas autant en scène les femmes de son entourage, Manet l'a fait également, pour rappeler que dans un certain milieu, femmes et hommes, finalement, agissaient sur un pied d'égalité. Et il a accueilli auprès de lui, Degas, des femmes, alors que Manet a eu très peu d'élèves. Et très peu d'élèves femmes, Eva González étant l'unique, au fond, disciple de Manet. Degas, au contraire, a su accepter autour de lui des femmes qu'il a finalement encouragées à devenir peintres de manière pleinement.
Mais Manet a encouragé Berthe Morisot aussi.
Alors,
quand même.
Par ailleurs, il y a, évidemment, et je sens dans vos paroles que les portraits que Manet a laissés de Berthe Morisot vous ont séduit. Effectivement, ce sont des leçons de séduction. Je crois qu'il les a, Manet les a réalisées dans cet esprit-là, parce que la séduction de Berthe s'est exercée sur lui et qu'il a voulu l'enregistrer, en quelque sorte, la traduire en peinture. Évidemment, Berthe n'agit pas en modèle professionnel. Elle est Berthe Morisot à travers toutes sortes de situations psychologiques, humaines, sociales, que Manet a voulu finalement peindre à travers elle et avec elle.
Mais en même temps, c'était une artiste elle-même. Et Manet, encore une fois,
l'a encouragé, si j'ose dire, à aller plus loin. Voilà. C'est-à-dire que quand il fait la connaissance des sœurs Morisot, on sent très vite, à travers les correspondances familiales, que Berthe est la préférée de Manet et réciproquement. Elle a déjà reçu des leçons de peinture, elle a exposé au salon des paysages dans la tradition de Corot, une peinture finalement encore assez timide. Je sais que je vais sans doute blesser certaines personnes en le disant, mais Manet l'encourage à aller un peu plus loin, l'encourage à devenir ce qu'elle va devenir dans les années 70, une actrice essentielle de la cause impressionniste, une artiste dont on a pu voir à travers des expositions récentes combien elle tenait sa place parmi les meilleurs, parmi les plus grands. Et là, l'émulation que l'exposition montre entre Degas et Manet s'exerce finalement ou s'établit entre Berthe Morisot et Manet. Car, à l'inverse, le Manet des années 1870, plus aérien, plus crémeux parfois, plus clair, plus féminin, doit quelque chose à cette cordée avec Berthe.
Ah, oui. Alors, ce mano à mano, dans l'histoire de l'art, dans l'histoire téléologique de l'art, c'est Manet qui le remporte. Car il est considéré comme le premier peintre moderne. Et notamment par Malraux, je vais citer un extrait, « Le père noir rose de l'Olympia, l'étoffe bleue du déjeuner sur l'herbe, de toute évidence sont des taches de couleur et dont la matière est une matière picturale, non une matière représentée. Le tableau dont le fond avait été un trou devient une surface et cette surface devient non seulement sa propre fin, mais sa seule fin. » Voilà, une sorte de Manet annoncerait cette rupture avec la représentation qui est la grande caractéristique de la peinture moderne. Est-ce que vous souscrivez à ce jugement, Philippe Lançon?
Bon, c'était aussi le fameux texte de Bataille qu'on a tous lu à 20 ans et qui nous a marqué. Pour vous répondre, on regarde cette exposition. Ce qui est tout à fait frappant dans la première partie, ce sont les noirs et les gris de Manet. Avec cet empattement, ce travail quand même, enfin vraiment extraordinaire, qui fait qu'effectivement, on est envoûté par cette matière picturale. En même temps, comme d'ailleurs chez Degas, et plus précisément, à mon avis, dans les pastels, hein, il y a une tension toujours très forte, c'est-à-dire que ces deux hommes, et là, l'exposition le montre bien, qui sont attachés à des traditions, hein, qui à la tradition picturale, qui connaissent les maîtres. Bien entendu, ils ont beaucoup regardé Delacroix, Degas, c'est toujours inscrit dans la tradition d'Ingres, mais bien au-delà, ils ont vu les peintres italiens, et tout ça, ils ont fait beaucoup de copies. Ils s'inscrivent dans cette tradition, donc ils continuent en fait, l'un comme l'autre, à être dans la représentation, et à l'intérieur de ça, chacun à sa façon, innove et sont des expérimentateurs. C'est aussi des gens qui découpent certaines de leurs toiles pour les recomposer, parfois sous la pression de la critique, mais pas uniquement. Il y a aussi un aspect work in progress, hein, très très marqué chez Degas, mais qui existe déjà aussi chez Manet. Et donc, c'est justement ça qui en fait des artistes si admirables, c'est qu'ils sont à la jonction d'une longue histoire de l'art, qui est l'histoire de la représentation, et de quelque chose qui est en train de s'annoncer et qui effectivement va conduire finalement à l'abstraction.
Vous êtes d'accord avec ça ?
J'ai envie de dire oui, absolument. Je partage moins le point de vue de Malraux que celui de Philippe Lançon, pour les raisons qu'il vient de dire. Notre génération s'est construite contre l'idée que Manet avait abandonné la représentation au profit de la peinture pure. L'exposition insiste sur la présence du sujet chez ces artistes-là de manière suffisante pour que le visiteur comprenne que tout ça n'est pas indifférent. Enfin, tout ce que ces artistes ont voulu représenter ne leur était pas indifférent. Ils ont voulu être des historiens du présent et de la vie moderne. Par ailleurs, cette picturalité est à mettre à leur crédit. Il est évident qu'il y a, chez l'un comme chez l'autre, une présence de la matière, de la touche, de l'écriture qui est indéniable. Mais il me semble que des artistes comme Manet et Degas, et notamment quand on pense à leur rapport à la grande tradition, ne se sont pas du tout considérés comme en rupture avec les maîtres qu'ils continuaient.
Pas du tout en rupture avec la représentation non plus. Vous avez fait allusion au texte de Bataille, Philippe Lançon. Mais il me semble que Bataille ne dit pas du tout la même chose que Malraux. Je le cite à propos d'Olympia. C'est l'humanité sans phrase, libérée des liens qu'il arrive à de multiples conventions. Ces conventions qu'énoncent aussi bien l'éloquence que la prose, le bavardage que le sermon. Ce qui domine, si nous regardons l'Olympia, est le sentiment d'une suppression. C'est la précision d'un charme à l'état pur, celui de l'existence ayant souverainement, silencieusement tranché le lien qui la rattachait au mensonge que l'éloquence avait créé. Et là, cela annonce la grande réflexion de Gaëtan Picon, 1863, naissance de la peinture moderne, et il dit, à partir de 1863, la peinture sera essentiellement celle d'une perception et non pas d'un imaginaire. Le monde dans lequel vivaient les peintres classiques était hanté de présences invisibles. L'art créait en se retournant. À partir de 1863, dit Picon, l'histoire de la peinture sera essentiellement donc celle d'une perception et non pas d'un imaginaire. D'une perception donc, et vous l'avez dit, Stéphane Guégan, et Frédéric Vitou le souligne aussi dans son livre très éclairant, voir Manet. C'est pas le premier peintre moderne au sens d'une rupture avec la représentation, c'est le peintre du présent, comme Degas d'ailleurs. Donc le peintre de la vie moderne, au sens que d'ailleurs Baudelaire donnait à ce terme, même s'il préférait couronner Constantin Guy que Manet, on y reviendra. Donc il me semble que je ne vois pas l'amorce d'une rupture avec la représentation chez Manet. Est-ce que c'est pas une histoire téléologique de l'art qui veut faire de l'abstraction, si vous voulez, l'apothéose de la peinture pure qui enrôle Manet à son service un peu, et malgré celui-ci, Philippe Lançon.
Bataille dit d'autres choses que ça hein, dans son texte, si je me souviens bien, je parle de mémoire. Mais de toute façon, l'histoire de l'art reflète, c'est une banalité, les idéologies et les perceptions qu'on a à un certain moment de ce qu'elle doit être de comment
oui,
elle
c'est
est venue. Donc, il est, c'est justement, j'essayais de nuancer ça en expliquant bien entendu que Manet est le peintre de la vie moderne, de même que Degas l'est, et Manet disait de Degas à un moment donné qu'il commence à être le peintre de la high life, à propos plutôt des scènes de steeplechase et de chevaux, qui sont les deux ayant peint des chevaux. Ils peignent les gens et certains loisirs de leur époque dans leur milieu. Ils peignent ce qu'ils ont autour de lui. Et de ce point de vue-là, il y a une phrase de Degas qui est absolument admirable. Quand il va voir sa famille à la Nouvelle-Orléans, en 1872-73, il y passe 6 mois, la famille de sa mère, ils sont dans le coton là-bas, donc ex-esclavagistes, voilà, plus ou moins ruinés par la guerre de sécession, plutôt plus que moins. Et en fait, il regarde cette chose toute nouvelle pour lui, les Noirs. Et il dit, l'exposition le montre assez bien, il n'y a qu'un tableau où il peint une nounou noire dans un coin, et c'est tout. Et alors on se demande pourquoi il n'a pas peint davantage. Et j'ai retrouvé des phrases qu'il avait dites, il y en a certaines qui sont citées dans le catalogue, mais ailleurs aussi. D'une part, il dit « Le monde noir, je n'ai pas le temps de l'entreprendre. Il y a des trésors de dessins de couleurs dans ces forêts d'ébène. Et je serais très surpris, au futur, hein, à Paris, de vivre parmi les seuls blancs. Et puis, j'aime tant les silhouettes, ce qui est très typique de Degas quand on voit comment il peint. Mais par ailleurs, il dit ça aussi, « Manet, plus que moi, verrait ici, donc à la Nouvelle-Orléans, de belles choses. Il n'en ferait pas davantage, et c'est cette phrase qui m'a vraiment frappé, « On aime et on ne donne de l'art qu'à ce dont on a l'habitude. » Donc, ce sont des peintres, et Degas, mais comme Manet, qui peignent ceux qu'ils ont l'habitude de voir et dans lesquels ils vivent. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, ils ne sont plus dans l'imaginaire, c'est-à-dire dans quelque chose qui ne correspond pas à leur expérience vécue.
Oui, c'est ça.
C'est ce qu'on peut dire.
Mais l'expérience vécue,
telle
qu'elle se traduit chez ces deux artistes-là, prend une dimension symbolique, sémantique, forte. On voit bien comment, dans les paroles de Malraux, c'est la voix de Zola qui résonne. Zola considère que Olympia, c'est du rose et du noir, et qu'il ne faut surtout pas, dit-il, rapprocher ça de la poésie de Baudelaire. Pour moi, le grand tournant dans l'exégèse de Manet, c'est le texte de Paul Valéry en 1932. Après, bien sûr, tous ceux qui, du temps de Manet, l'ont soutenu. Valéry, en 1932, dit « Au contraire, c'est de Baudelaire qu'il faut rapprocher Manet. C'est des fleurs du mal qu'il faut rapprocher la peinture, cette nouvelle peinture des années 1860-70. » Et donc, il réintroduit la dimension du sujet, et à travers le sujet, la volonté qu'ont eu ces artistes d'enregistrer ce qu'il y avait de neuf dans la société dans laquelle ils vivaient.
Alors, Valéry dit Olympia, brutal comme un fait. Il n'y a pas Vénus derrière. Et effectivement, l'accent fondamental de la modernité, c'est l'absence de toute signification extérieure ou visible à l'expérience, à ce que vous appeliez l'habitude. Philippe Janson, mais alors là, quelle n'est pas ma surprise de lire sous la plume de Baudelaire une phrase sur laquelle vous allez nous éclairer tous les deux. Vous n'êtes que le premier, il s'agit de Manet, dans la décrépitude de votre art. Que voulait dire Baudelaire, selon vous, Stéphane Guégan ?
Il parle de l'état général de la peinture de son temps, et il l'a exprimé dans ses salons, notamment en 1859. Baudelaire considère que le romantisme, et notamment Delacroix, n'a pas été remplacé, et qu'au contraire, les artistes se contentent de peu, finalement du simulacre, d'une réalité qui est elle-même dégradée au regard des temps héroïques. Baudelaire, depuis 1845, appelle une peinture héroïque de la vie moderne, une peinture épique de la vie moderne. Et autour de lui, rien ne semble finalement répondre à cette attente. Baudelaire il l'a prouvé dans ses relations avec Courbet précédemment, Baudelaire a du mal à adhérer au réalisme. Il a du mal à comprendre même cette peinture. Il fera un pas vers Manet, mais il n'ira jamais jusqu'à voir en lui le grand peintre de sa génération. Donc la peinture, de manière générale, finalement, c'est dégradé. Elle n'a plus la valeur qui était la sienne du temps du romantisme. Donc il dit à Manet, certes, vous êtes le meilleur d'entre nous, mais finalement, dans un état de la peinture dégradé.
Philippe Lançon.
Oui, si je me souviens bien de la lettre de Baudelaire à Manet, il y a un aspect aussi, j'allais dire chaleureux, ironique. C'est-à-dire, lui dit, ouais. Oui, c'est ce que vient de dire, vous êtes le meilleur. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes le meilleur dans un contexte déplorable. Et qu'il y a un aspect, je dirais pas qu'il lui rabat le caquet, mais parce que Baudelaire se plaît, Manet se plaignait beaucoup et a raison d'ailleurs des réactions critiques au tableau qui pouvait exposer, qui était d'une violence quand même extrême, hein, ne pas l'oublier. Par ailleurs, les liens entre les deux, ça c'est une anecdote, mais je la trouve tellement émouvante que je ne résiste pas à la citer. Comme donc vous savez, la femme de Manet, Suzanne Lenoff, était une excellente pianiste. Hollandaise. Et quand Baudelaire a commencé à aller très très mal, elle allait chez lui jouer du Wagner. Il était devenu déjà aphasique, il était en train de mourir, et elle allait très régulièrement jouer du piano pour divertir le pauvre Baudelaire qui était en train de mourir. Apparemment plutôt du Wagner, ce qui est assez drôle puisqu'en fait Manet, lui, n'aimait pas Wagner, enfin en tout cas pas trop. Donc voilà, il y a cet aspect sur la... Mais je dirais pour finir, c'est ça que Baudelaire n'est pas le seul à avoir du mal avec le réalisme. Même quand même, le grand écrivain du naturalisme, Zola, on peut pas dire qu'il ait absolument compris Manet. Certes, il l'a soutenu dans une certaine mesure, mais on sent bien quand même qu'il... Il passe à côté de plein de choses. Je ne sais pas si Stéphane est d'accord avec ça. Mais...
D'ailleurs, c'est intéressant, ouais. C'est intéressant finalement que les écrivains et les peintres qui ont pourtant été très proches les uns des autres, voire complices, n'aient pas compris le cœur de cette nouvelle esthétique. En tout cas, n'aient pas mis en lumière ce qu'il y avait de neuf dans cette peinture. Et c'est vrai qu'ils la privent, généralement, Zola plus que d'autres, d'une dimension qui est celle du sens. C'est un langage complet que le réalisme. Ce n'est pas simplement une peinture qui prétend à rendre la réalité. C'est une peinture qui prétend la faire parler, la faire signifier.
Oui, mais alors...
En fait, ils ne saisissent pas la forme.
Philippe Lançon.
En fait...
L'au-delà de la forme, le sens au-delà de la forme.
Oui, voilà, c'est ça. Ce qui a de sens à l'intérieur de la forme. Et ça, et donc, c'est très frappant chez Zola, ils se rabattent dans la description sur le sujet. Ouais. Mais en fait, c'est comme s'ils ne voyaient pas, ils voient l'idée, et ils ne voient pas, oui, comme dit Stéphane, le sens derrière la forme.
Oui, mais... Restons-en un peu à Baudelaire, parce que Baudelaire a écrit le peintre de la vie moderne. Et on le sait, pour Manet, peintre d'histoire était la plus sanglante injure que l'on pût adresser à un artiste. Donc, ça aurait pu être lui, le peintre de la vie moderne. Parce que voici ce que Baudelaire écrit. Le plaisir que nous retirons de la représentation du présent tient non seulement à la beauté dont il peut être revêtu, mais aussi à sa qualité essentielle de présent. Ouais. Et non, il choisit Constantin Guy et pas Manet. Donc je reste quand même, je trouve cela assez énigmatique, et surtout je trouve énigmatique aussi qu'il parle de la décrépitude de l'art au moment même où à l'art s'offre justement le visible dans toute son ampleur, ce qui permet à Gauguin de dire « la peinture commence à Manet
oui. ».
C'est un commencement, pas au sens d'une rupture avec la représentation, mais au sens d'une ouverture du visible.
Ou d'un recommencement. Non, Baudelaire hésite à adouber pleinement Manet, pour lequel d'ailleurs il a la plus profonde... amitié. Poulet-Malassi, l'éditeur des Fleurs du Mal, dit que c'est une amitié passion, hein, une amitié passion entre Baudelaire et Manet. Mais il y a tout de même quelques textes, à défaut du grand texte que Manet attendait de Baudelaire, il y a tout de même quelques textes qui prouvent que Baudelaire s'interroge sur la capacité qu'a Manet à renouveler la peinture. Quand vous dites que Manet avait le plus grand mépris pour la peinture d'histoire, une certaine peinture d'histoire, car non seulement il a accueilli l'histoire contemporaine dans sa peinture, ô combien, mais il a renouvelé tous les genres de la peinture, tous les genres, et sciemment, volontairement, avec un soin même qu'on ne trouve pas chez d'autres artistes de son temps. Et puis, dans la correspondance, dans les petits poèmes en prose, pensez à La Corde, ce texte magnifique où Baudelaire met en scène Manet après le suicide d'un de ses petits assistants. Il voit bien chez Manet qu'au-delà du prosaïsme, au-delà de la vie présente, il y a une volonté de signifier, il y a la volonté d'exprimer une nouvelle poétique de
oui.
la nature.
Alors, sur Manet, je voudrais aussi vous interroger parce que, alors, Manet a été très attaqué, notamment, on peut le comprendre, pour Le Déjeuner sur l'herbe, qui ne figure pas dans l'exposition, mais aussi, à ma grande surprise, pour Le Balcon. Et Manet s'en plaignait, on ne sait pas ce que c'est que d'être constamment injurié, cela vous écœure et vous anéantit, confiait-il à Antonin Proust. Mais alors, pourquoi Le Balcon, ce tableau, où d'ailleurs figure Berthe Morisot, pourquoi ces attaques? Qu'est-ce qui est justifié? Quel est le crime, hein? Quelle est la transgression que Manet a commise à ce moment, Stéphane Guy?
Il faut d'abord rappeler que le salon, où s'entassent 3 à 4 000 œuvres sous le Second Empire, tous les deux ans ou tous les ans, est un lieu où il faut mordre sur l'attention publique. Il faut mordre sur l'attention des critiques. Il faut provoquer, en quelque sorte, la curiosité, la susciter. On sait le scandale qu'a causé Olympia en 1865. Hein. Nous avons relevé 200 mentions critiques dans la presse de l'époque, la plupart négatives, mais pas toutes. Et on pourrait d'ailleurs, avant de revenir au balcon, dire que Manet a été soutenu très tôt, dès 1861 par Gautier et en 63 par toutes sortes d'écrivains importants et de critiques. Donc il a su tout de même convaincre. Mais la majorité ne comprend pas cette peinture. La majorité ne comprend pas cette peinture. Et en 69, au salon de 1868, le balcon suscite effectivement l'incompréhension d'une partie de la critique. D'abord parce que ce tableau finalement brouille les frontières génériques, comme on dirait aujourd'hui. C'est à la fois un portrait de gens qui ne sont pas identifiables et une scène de genre. Mais une scène de genre doit immédiatement révéler l'anecdote, la situation humaine ou psychologique qu'elle cherche à traduire. C'est pas le cas. Que font ces deux femmes et cet homme derrière ce balcon? Par ailleurs, lui-même assez hétérodoxe. On ne peint pas dans le grand format, finalement, ces signes de la modernité architecturale, comme Manet le fait, avec un verre en plus qui fait dresser sur leur tête les cheveux de la critique. Donc à la fois incompréhension du sujet, audace formelle.
On ne sait pas aussi où se trouve exactement le peintre par rapport
exactement, dans une sorte de suspension spatiale. Voilà. Et puis, il y a inversion aussi d'une pratique, elle, séculaire, c'est-à-dire que la peinture se voulait une fenêtre ouverte sur le monde, et ici, finalement, le tableau s'ouvre sur l'espace du spectateur. Nous devenons les objets de leur attention. Mais pourquoi?
Oui,
pourquoi
ils nous regardent.
Ils nous regardent, pour quelle raison?
Pas tous.
Pas tous. Et par ailleurs, Philippe Lançon a raison, une scène de genre, comme une scène d'histoire d'ailleurs, doit s'organiser selon une cohérence narrative. Là, il n'y a aucune cohérence narrative. Et Philippe a raison de le souligner, le signe le plus évident de cette incohérence volontaire, mais qui est l'incohérence de la vie, c'est le fait que les regards soient tous divergents.
Les regards divergents, oui. Alors, venons-en à Degas, quand même. D'abord parce que, moi aussi, quand je suis allé à l'exposition, je me disais, c'est Manet qui va gagner. Voilà. Eh ben, je dirais plutôt qu'il y a match nul. En tout cas, j'ai été émerveillé par certains tableaux que je découvrais, ou que je retrouverais, redécouvrais de Degas, et notamment celui-ci dont vous parlez dans votre article de Libération, Philippe Lançon, Jeune femme et ibis. C'est jeune femme absolument superbe. D'ailleurs, je trouve que le dessin, le portrait en est classique. Et puis, ces deux ibis rouges dans ce qu'ils se font là, c'est absolument extraordinaire. Alors, dites-moi davantage, Philippe.
Bien, c'est un tableau que, d'ailleurs, conformément à ce qu'il a beaucoup fait dans sa vie, il l'a retravaillé. C'est un tableau à comme on dit, un fusil à deux coups. C'est un tableau à deux ou trois coups. Hein. Et ça, c'est une première chose qui est d'abord peint visible sous l'influence de Gustave Moreau. C'est-à-dire avec une volonté orientaliste, hein, qu'on sent dans l'arrière-plan de cette ville orientale où si j'ai perce tout un tas de clochers, de minarets, enfin voilà.
Une sorte d'Istanbul imaginaire.
Oui, Istanbul imaginaire. Là, on est dans l'imaginaire, hein, d'ailleurs, beaucoup plus que dans l'expérience. Donc, c'est un tableau un peu à part parce que justement, il est encore très marqué par quelque chose dont Degas va se détacher, qui est ce fameux imaginaire dont nous parlions à travers Gustave Moreau, dont il se détachera aussi, après en avoir été très proche. Et effectivement, à un moment donné, il a ajouté ces ibis rouges. Et si vous regardez bien le tableau, deux ou trois petites taches de peinture rose qui figurent des roses. Et là, justement, on sent l'apparition aussi à travers ces ibis de quelque chose que finalement on a déjà chez Manet, qui est l'apparition à travers uniquement les signes de la peinture d'une atmosphère. Qui se superpose à une ce qui pourrait être une banale description d'un imaginaire orientaliste. Dans l'exposition, le tableau est exposé à côté d'un tableau absolument admirable de Manet, qui était, je crois, exposé en 1866, qui est La femme au perroquet, dont on pourrait aussi parler longuement. Et donc, c'est intéressant, ces deux œuvres confrontées, parce qu'elles n'ont rien à voir. C'est vraiment deux mondes tout à fait différents. Et, comme je le disais au début, c'est le fait même qu'elles n'ont rien à voir, finalement très très peu en commun, permet de mieux les regarder l'une et l'autre. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'a semblé. C'est vraiment, il y a un côté parapluie et machine à coudre, mais évidemment, en altitude.
Enfin, ce sont quand même deux femmes.
En altitude.
Deux femmes avec volatilité.
Pas tout à fait.
Oui, oui, mais c'est pas du tout le même.
Le même regard.
Non. Et par exemple, il y a quelque chose de très beau dans l'imaginaire de cette femme dessinée et de la présence du dessin très forte chez Degas, tandis que La femme au perroquet d'ailleurs a été critiquée pour la supposée laideur du modèle, qui était une amie de, là le nom m'échappe, mais qui était une amie de Manet. Et moi, ce qui frappe dans La femme au perroquet, une femme qui est enveloppée dans des gris tellement beaux, tellement travaillé, avec ce citron à moitié rongé par le perroquet et dont l'écorce est tombée par terre, ne peut pas être laide. C'est impossible. Donc, et elle ne l'est pas.
Oui, elle ne l'est pas. Non. Alors, Degas, qui a vécu beaucoup plus longtemps que Manet, est mort en 1883, je crois,
1883, oui.
Atteint de la syphilis,
oui.
C'est ça, comme Baudelaire.
Comme Baudelaire.
C'est la maladie de l'époque. Degas lui a survécu jusqu'en 1917, oui, en effet. Et donc Valérie, qui a écrit sur Degas, a connu Degas. Et j'ai sous les yeux un texte de Yves Bonnefoy sur Degas, où il dit ceci, dans l'improbable: Degas eut une vie simple, marquée par l'étude et le désastre. Le désastre, c'est sa cécité progressive, enfin il voyait de plus en plus mal, et sa peinture, tant qu'il pouvait peindre, en a été changée. C'est-à-dire, il a fait des portraits, notamment celui dont nous venons de parler, et d'autres, et puis il est devenu, comme le dit d'ailleurs Valérie, de plus en plus un peintre du geste, un peintre du mouvement. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que il y a une toile de Manet absolument sublime, le torero mort, cet homme d'une élégance folle au sol. Et puis, il y a dans un steeplechase un cavalier,
un jockey
qui meurt aussi.
Meurt aussi.
Mais c'est pas du tout la même chose.
Oui,
c'est quand même le mouvement.
Oui.
Et alors que là, c'est quelque chose de hiératique,
une sorte
le tourbillon qui reste ouais, le tourbillon ouais, jusque ouais. dans sa manière de d'être mort, si ouais, j'ose dire. Ouais.
Si je peux revenir au mot désastre, parce qu'il me suggère quelque chose. C'est par exemple le fait que Degas possédait, ou en tout cas a consulté, les astres de la guerre de Goya. Avant de peindre sa fameuse scène de guerre au Moyen-Âge qui est dans l'exposition et qu'il expose en 1865, le salon d'Olympia. L'autre désastre, c'est la guerre, parce qu'ils n'y ont pas été que des figurants pendant le siège. Ils ont sans doute participé à la bataille de Champigny, ils ont vu la mort en direct. Il a vu mourir Degas, il en parle beaucoup, ses camarades, le sculpteur Cuvelier et d'autres, Bazille va mourir sous l'uniforme des Zouaves d'Afrique. La guerre de 70-71, Jules Ferry l'a dit plus tard, est un trauma considérable. On l'a oublié, nous autres hommes et femmes du XXe siècle, au profit des guerres mondiales.
Au profit notamment de la guerre de 14. Notamment.
Voilà, au profit des guerres mondiales, de la Shoah. Donc, évidemment, mais le trauma jusqu'en 1900, c'est 70-71. Et l'autre désastre, Si je me réfère à la tradition familiale des Halévy, c'est la mort de Manet. Dans Degas parle, que Jean-Pierre Halévy a publié en faisant un montage de citations entre Ludovic Halévy et Daniel Halévy, et il est clair que la mort de Manet est une catastrophe pour Degas. Il perd son émulation, mais il perd, dit Ludovic ou Daniel, son irremplaçable ami et rival.
Oui, parce que leur amitié était assez orageuse.
Orageuse, mais grande amitié. À vrai dire, les contraires en littérature, en peinture, les contraires s'attirent. Et puis, alors, l'autre désastre, vous avez raison d'y faire allusion à propos de l'homme mort et de la scène de Steeplechase, c'est que les modernes, appelons-les comme ça, transforment la vision de la mort en peinture. Elle n'est plus, elle n'a plus cette aura qu'on lui voit chez Delacroix et d'autres. Elle est là, le jockey comme le toréador sont en train de mourir devant nos yeux et nous sommes impuissants. Et non seulement nous sommes impuissants, mais nous nous délectons. Vous l'avez raison, nous délectons du spectacle de la mort. Et ça, l'intelligence des grands peintres de cette époque-là consiste aussi à nous faire prendre conscience nous autres. Spectateur, finalement, de la nature de notre plaisir, devant le spectacle de la vie moderne.
Mmh. Alors, il y a aussi un autre tableau de Degas qui m'a fasciné, donc sa première période, c'est-à-dire avant, en effet, qu'il ne devienne ce peintre du mouvement et du geste, c'est la femme accoudée près d'un vase de fleurs. Parce que c'est le vase de fleurs qui occupe tout le tableau, la femme est presque à l'écart, et cette idée, cette idée paradoxale, donne un résultat absolument merveilleux. Qu'en pensez-vous, Philippe Lanson ?
Oui, c'est un tableau qui a provoqué pas mal de littérature, parce que...
Ah bon ?
Oui, parce que il faut dire, on est à la radio, mais que le bouquet de fleurs prend une place phénoménale. Apparemment devenant centrale. Et on pense d'ailleurs à un pastel de Millet qui, au même moment, est exposé à Orsay dans l'exposition des pastels, qui est elle-même admirable, et où on peut voir énormément de pastels de Degas, surtout des danseuses. Et c'est intéressant de comparer avec le tableau de Millet, parce que on comprend, enfin, à mon avis, je sens les choses comme ça, que finalement, l'énormité de ce bouquet de fleurs n'est pas, comme on pourrait le penser, une manière de dire le centre du tableau, c'est le bouquet, et la femme est secondaire. Mais en fait, cette énormité, paradoxalement, du fait du génie de Degas, met en valeur cette femme et attire notre attention sur elle, avec un regard, si je me souviens bien, qui part un petit peu, qui ne nous regarde pas. Tandis que dans le pastel de Millet, elle nous regarde. Dans le pastel de Millet, elle nous attire, elle dit « Regardez-moi, regardez-moi ». Là, c'est pas du tout ça. Et c'est d'ailleurs, finalement, de ce point de vue-là, un sommet artistique et de psychologie. C'est-à-dire, pour être regardé, ne demandez pas à l'être. Et donc, pensez que vous êtes en train de regarder le bouquet de fleurs, et finalement, votre regard va glisser sensiblement et de plus en plus profondément vers la femme qui ne nous regarde pas. Et ça, c'est vraiment c'est du grand art.
C'est les effets de décentrement. C'est les effets de décentrement que l'exposition, dans son accrochage, essaie de mettre en évidence. Quand vous êtes dans l'exposition, face à Olympia, avec ce bouquet qui a d'ailleurs fait le bonheur des caricaturistes en 1865, le bouquet d'Olympia semble extravagant, lui aussi. Mais il est posé marginalement. Hein, le corps d'Olympia occupe tout le centre de la composition. Mais l'exposition met en perspective, par un glissement vers la droite, le tableau que Philippe vient de décrire, et montre comment, qu'il s'agisse de coexistence miraculeuse, comme dirait Paul Valéry, ou véritablement d'effet de dialogue, certaines trouvailles de composition passent d'un artiste à l'autre. Il s'observe en ces années-là, à la fin des années 60, il s'observe comme aucun, peut-être, peintre ne se sont jamais observés.
Alors, un mot pour finir sur leur tempérament respectif. Donc, Manet était très civil, enfin, de temps en temps, il pouvait être emporté. J'ai appris, en lisant le livre de Vitou, notamment, qu'il avait provoqué en duel Duranty, oui, un critique d'art et un romancier oublié aujourd'hui.
À tort,
en effet. Mais alors, Degas était célèbre pour son intransigeance, sa violence même. Valéry dit de Degas, Alceste près de lui eût fait figure d'homme faible et facile. Et puis on sait son antidreyfusisme, intransigeant, militant. Alors, que penser de ces traits de caractère et en quoi ont-ils eu un impact, une influence sur la peinture, Stéphane Guigou?
Pour lier deux éléments de votre question, je rappellerai ce que Daniel Halévy dit de Degas, puisque Daniel Halévy, donc le fils de Ludovic, est celui des Halévy que Degas continue à fréquenter malgré Dreyfus. Malgré l'affaire Dreyfus, qui effectivement est un autre moment dans la biographie de Degas. Et Daniel rend parfaitement compte du type de d'effervescence dont était capable Degas. Hein, il cite par exemple aussi un condisciple de Proust, Greg, et Greg disant à Degas, vous poussez très loin l'art d'être désagréable, d'être agressif. Il y avait ça. Alors est-ce que ça signifie un inconfort psychologique? Est-ce que Degas a du mal à tenir sa place dans une conversation de groupe, contrairement à Manet, dont tout le monde dit qu'il est l'homme de l'aisance, l'homme de la sociabilité heureuse? C'est fort possible. Mais c'est aussi les grincheux, alors je ne parle pas de ses positions politiques et idéologiques, ce sont aussi les grincheux qui font advenir les choses. Et si on en juge par la correspondance de Manet était très friand de ses joutes verbales, et quand il est loin de Paris, par exemple, pendant l'été sur les plages normandes, il écrit en tout cas que les conversations du grand esthéticien qu'est Degas lui manquent.
Philippe Lançon, donc.
Oui,
c'est leur tempérament respectif.
Leur tempérament, oui. Degas disait de Manet, il y a eu quand même des brouilles, enfin une célèbre dont on ne pourra pas parler aujourd'hui. Mais quand rétrospectivement, Ambroise Vollard, le marchand, lui demande est-ce que vous êtes resté brouillé avec Manet, et Degas lui répond, il était impossible de rester longtemps brouillé avec Manet. Tandis que Degas, effectivement... ça, quand on voit de près sa vie, est une succession de conflits et de brouilles qui n'empêchent en rien l'admiration. C'est ça qui est très intéressant, de la plupart de ceux, même avec qui il s'est brouillé. Il y a les brouilles célèbres avec son vieil ami Halévy au moment de l'affaire Dreyfus. Mais avant ça, ça s'est très mal passé avec Basile. Parce qu'en fait, Degas semble un peu inapte à... Il participe à des phénomènes de groupe et en même temps, il ne les supporte pas. Et il trouve qu'il n'est jamais à sa place, que les choses ne sont jamais à leur place. Donc il y a des choses qu'il ne fait pas, alors qu'il devrait les faire. Et tout en prenant quand même un rôle de premier plan, puisqu'on le lui accorde, parce que tout le monde sait que c'est l'artiste qu'il est. Et donc, il y a beaucoup de Basie, hein, les lettres de Basie sont assez remarquables là-dessus. C'est-à-dire, dit, mais il est vraiment un vieux, on ne peut rien faire avec lui, quoi. Oui, oui. Mais ça n'empêche pas que c'est Degas.
Et Caillebotte, tout le monde le Caillebotte aussi le confirme.
Caillebotte,
on sait l'être oui, Pissarro. Caillebotte le dit, Degas est impossible.
Oui, Degas est impossible.
Degas est impossible.
En tout cas, oui, il a brouille avec Manet, la plus célèbre, c'est, je crois, à cause du tableau
mutilé. Oui.
Du tableau mutilé, c'est-à-dire que Manet n'avait pas supporté la représentation de sa femme. Il était affalé sur un fauteuil, sa femme était au piano, et il trouvait que, franchement, Degas l'avait enlaidi. Il était, en effet,
furieux. Oui, mais n'oublions pas que Degas a gardé ce tableau, donc mutilé par Manet, qu'il avait repris jusqu'à la fin de sa vie. Et ça pourrait être l'objet d'un récit qui a peut-être été fait d'ailleurs. Il contemplait ce tableau en se disant il faut que je le refasse, que je repeigne la femme de Manet, et il ne l'a jamais fait. Donc en fait, il continuait post-mortem, après la mort de Manet, son dialogue à travers cette pomme de discorde qu'avait été cette rupture.
Et donc l'exposition dont nous avons parlé se tient au Musée d'Orsay jusqu'au 23 juillet. Merci beaucoup Philippe Lançon, merci beaucoup Stéphane Guégan. Alors j'ai cité le livre de Gaëtan Picon, « Naissance de la peinture moderne » chez Gallimard, « L'improbable » de d'Yves Bonnefoy au Mercure de France, et « Voir Manet » de Frédéric Vitou chez Fayard. Je pourrais citer également de Stéphane Guégan, « Œil pour œil » chez Gallimard. Donc la semaine prochaine, l'émission aura pour titre « En compagnie de Milan Kundera ». Mes invités seront Florence Noiville et Benoît Dutertre. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration de Corinne Amar, à la réalisation François Connac, à la technique aujourd'hui Lucien Lefebvre. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.